Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 FM et sur graphite.net. Je suis Christine Roger et je suis en studio avec...
Barnabé,
Samuel,
Marie,
Emmanuel,
Justin.
Nous continuons la présentation par les étudiantes et les étudiants de l'UTC de leurs travaux réalisés dans le cadre de l'atelier d'écriture Solarpunk. Les étudiants que vous allez entendre dans quelques instants font partie du groupe IA ou pas IA. Pendant 5 jours, ils ont exploré l'écriture dans un univers solarpunk, un genre qui imagine des futurs désirables, fondés sur des technologies sobres, des solidarités réinventées et une relation plus respectueuse à la Terre. Le solarpunk esquisse d'autres possibles, des communautés qui font le choix de la coopération, de la réparation et du soin. Cet univers que vous allez découvrir maintenant, c'est l'Upload, une université populaire, libre, ouverte, accessible et décentralisée dans un Compiègne des années 2040-2050. Et je passe la parole à Barnabé.
Je m'appelle Barnabé Roussel et je vais vous lire le début de ma nouvelle qui s'intitule « Instant décisif ». Sarah, tu es là ? Effroi. Elle ne l'attendait pas. Pas maintenant. Sarah se précipita pour dissimuler l'épreuve. Elle fourra sous un drap la pile de disques durs jonchée sur son bureau, étouffa le bruit des ventilateurs avec un coussin abîmé qui traînait dans la cave et cacha sous la table les composants volés. Volés ? Non, empruntés seulement. C'était pour le mieux qu'elle faisait tout ça. Du moins, elle en était convaincue. Je descends. Damien avait redouté ce moment toute la soirée. Il le niait encore. Irréel. C'était irréel. Jamais il n'avait imaginé devoir le faire. Mais, par respect pour lui-même et pour l'Upload, c'était son devoir. Telle était la manière qu'il aimait voir les choses. Il s'engagea dans le petit escalier en colimaçon qui le séparait du sous-sol. Chaque marche franchie faisait grimper son angoisse. Plus ils enfonçaient dans la pénombre de cette cave, plus ses certitudes s'effritaient. Derrière son air confiant et assuré, l'anxiété le dévorait. Sarah se tenait bien là, minuit passé, dans cette chaufferie désaffectée. Agenouillée, elle semblait vouloir dissimuler les étrangetés qui s'y déroulaient. Mais il était trop tard. L'ampoule usagée et les dizaines de petites diodes de carte mère éparpillées sur le sol émettaient une lumière à peine suffisante pour voir correctement. Je n'osais pas y croire. Tu l'as vraiment fait ? Ce n'est pas ça, je voulais juste... Les yeux de Damien balayèrent la pièce. Il cachait quelque chose derrière son dos. Sarah eut un frisson d'horreur. Les pas lourds de son camarade résonnèrent, dans sa tête au centuple, si bien qu'elle ne sentit presque ses tempes exploser. Coincée. Elle était coincée. Elle ne pouvait plus s'enfuir. Je passe maintenant la parole à Samuel qui va lire sa nouvelle.
Merci Barnabé. Donc je suis Samuel et je vais vous lire un passage de ma nouvelle « Sous les ruines ». Après quelques secondes, Pearl passa à l'action. Il explorait tout, frénétiquement, comme s'il avait toujours vécu pour cette découverte. Ruby, elle, n'était pas sereine. Quelque chose clochait. « Arrête, s'il te plaît. On ne touche à rien en explorant normalement. C'est notre principe », lança-t-elle d'une voix ferme. « Oh, lâche-moi. J'ai le droit de faire différemment pour une fois. » Personne ne le saura de toute façon. Il continua de fouiller. Il s'en moquait. Il était trop excité. « Regarde, Ruby. Des photos de Compiègne en 2018. Oh, un trombier étudiant. Oh, regarde, des cours sur le low-tech. » Une joie soudaine envahit Perle. Il n'en revenait pas. « Je te l'avais dit, le voilà ce trésor. Regarde, Ruby, des disques. C'est les sauvegardes des modèles d'IA de l'UTC. Elles étaient censées avoir été détruites lors du soulèvement. » Ruby, elle, restait immobile, comme paralysée par ce qu'il venait de découvrir. « Si on arrive à les lire, on pourrait s'en servir pour prédire le meilleur moment pour les récoltes. Fini les erreurs. » Ou centraliser toutes nos connaissances au lieu de fouiller dans la bibliothèque pendant des heures, s'enthousiasmait Perle. Ruby repensait à ce que lui avait conté sa mère. L'IA avait détruit toutes les valeurs que prône l'Upload. Je ne peux pas, Perle. Regarde ce qu'a fait l'IA aux anciens. Et puis on s'en sort bien à l'Upload, non ? Notre communauté est prospère, frugale, je m'y sens bien, moi. Mais on pourrait utiliser l'IA pour le bien, une IA qui correspond à nos valeurs. Perle ne s'arrêtait pas. Il courait aux quatre coins de la pièce, s'emparait d'un document et passait directement à un autre. La charte de l'Explo est claire. On ne touche rien. Vraiment ? Je serai hissé au rang de roi si je ramenais ne serait-ce que quelques pages aux Axels. Perle. Il s'immobilisa. Il distinguait à peine son visage, mais il connaissait ce ton. « Tu sais ce que ça signifie ? On ne pourra plus se voir si tu fais ça. » Il laissa le document glisser de ses doigts. Le papier tomba au sol sans bruit. Ils restèrent un moment dans le silence poussiéreux des archives. Puis ils repartirent, refermant la porte derrière eux. Le lendemain, quand elle repensa à cette nuit, elle se demanda si Perle avait vraiment tout laissé. Elle ne lui poserait pas la question. Merci pour votre écoute et maintenant je passe la main à Marie.
Merci Samuel. Moi c'est Marie et je vais vous lire un extrait de ma nouvelle Journal d'Ezra. Jour 1. Cher journal, j'ai pris une décision. Je dois partir et vite. La guerre s'intensifie. À cette allure, on va tous mourir. Papa, maman et Stella ont déjà quitté la région. Mais moi, j'ai du mal à partir. Où est-ce que je vais aller ? Jour 2. Compiègne. Pourquoi pas ? Apparemment, il y a une grande fédération nommée Upload qui pourrait m'aider. Il faut que j'organise ma fuite maintenant. Stella a réussi à fuir le pays grâce à mon système Sky. Je pense que je vais l'utiliser aussi. Jour 26. J'ai pris beaucoup de temps à optimiser Sky, mais j'ai réussi. J'ai reconfiguré mon avion automatisé. Je dois quitter Chicago ce soir. Ils fermeront les frontières à 1h du matin. Jour 28. Je suis arrivé à Compiègne aujourd'hui. Quelle belle ville. J'ai fait la rencontre de John. Il m'a invité à la réunion de l'Upload demain. Je pense que je vais y aller. Jour 29. J'étais à la réunion ce matin. À mon arrivée, il y avait déjà un rassemblement. Je n'ai rien compris à la discussion. Il y avait trop de bruit. Mais j'ai cru entendre que l'Upload allait se scindre. On nous a forcés à choisir un camp. Les Ups ou les Ops ? J'ai choisi les Ops. Je pense que je ne suis pas encore prête à vivre sans technologie, surtout sans IA. Mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Après notre vote, on a été séparés. Chaque camp a rejoint sa base. Jour 33. On a eu notre première réunion. J'étais un peu stressée. Je ne connaissais encore personne. Mais au final, ça s'est bien déroulé. Je leur ai parlé de Sky. Mon idée les a enthousiasmés. À la fin, on a décidé que pour commencer, on allait introduire une Sky dans la ville, sans en avertir les Ups. Comme je suis la seule à connaître le système, c'est moi qui suis chargée de cette mission. Jour 50. Cela fait une semaine que j'ai commencé à déployer Sky. Je n'ai plus le temps d'écrire. Je reviens bientôt. Jour 67. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Passons à la pause musicale.
C'était Soledad de la Manu Negra. Nous sommes toujours sur Graphite et vous écoutez les étudiantes et les étudiants de l'UTC lire des extraits des textes qu'ils ont écrits cette semaine dans le cadre de l'API Solarpunk. Et nous entendons maintenant l'histoire d'Emmanuel.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel Gobli et je vais vous parler de mon interprétation de l'arbre. Compiègne était différente des autres villes. Socialement, elle était à son apogée. Les habitants vivaient selon un système inspiré des traditions africaines. Au cœur de la ville, de la cité, se trouvait le grand amphithéâtre en ruine, avec son arbre à palabres. C'était un baobab qui servait de lieu de réunion, de négociation et de célébration. Le respect des aînés, le retour à l'oral structurait la vie quotidienne. Mais technologiquement, la ville stagnait. L'innovation n'était pas recherchée pour améliorer le quotidien des habitants ou enrichir ses créateurs. Elle servait à développer des systèmes de valeurs et à consolider le pouvoir politique. Pourtant, il y avait un peu de technologie. En effet, les GI de l'Université technologique de Compiègne, ainsi que les IM, avaient développé des armes contrôlées par des algorithmes surpuissants. On leur avait fait une confiance aveugle, ignorant le potentiel obscurantiste qui, sous couvert de rationalité, pouvait justifier la diffusion d'idéologies les plus sombres. Après l'effondrement des anciens centres de pouvoir et la libération de vastes zones, l'anti-intellectualisme avait prospéré. Le retour central du pouvoir central était affaibli. Mais des hubs se conservaient l'influence des idées anciennes. Dans l'UCO, bastion du fascisme universitaire, des groupes se consacraient à remettre en place de simples algorithmes de décision fonctionnant avec très peu de ressources, alimentés par des serveurs refroidis au vent marin. Ces algorithmes, premier balbutiement d'IA, avaient transféré via des mails et Discord pour envisager un potentiel retour à l'ancien monde. Depuis l'Ouest, un mythe circulait. Un groupe d'ingénieurs aurait développé une IA avancée. C'est à cette époque que naquit Kwame. Âgé de 19 ans, il rêvait de devenir ingénieur comme son père. Un des fondateurs de l'Upload, mouvement de résistance né à la Sorbonne, il venait de mourir d'un cancer du côlon. Les funérailles se tinrent dans le grand amphithéâtre de Compiègne. Les habitants se rassemblèrent sous l'arbre, dans un silence lourd, sous un ciel gris. Un grand combattant de liberté était parti. Il laissait en héritage ses idées dans la ville qu'il avait participé à reconstruire. Le maître de la parole, appelé Kanté, commença le rituel d'inhumation. Il se déroulait à l'endroit même où l'ombre du tronc de l'arbre apparaissait en jour ensoleillé. Là où, sous le baobab, on reconnaît l'un des créateurs de cet équilibre avec ses racines. À la fin de la cérémonie, Sank, ingénieur respecté pour ses systèmes de filtration de l'Oise et de préservation des serveurs de la physique de la BUTC, s'avança vers les immenses racines. Il fixa la foule en prononçant son hommage aux combattants. Ensuite, la foule se dispersa vers les marchés de la rue Saint-Corneille. En effet, les agriculteurs appelés Mara avaient produit de la poudre de baobab pour l'occasion, pour qu'on puisse trouver ce jour-là sur les étals du marché. Sur le chemin du marché, Sank retrouva Kwame, qu'il considérait comme son petit frère. Il s'approcha, lui présenta ses condoléances, mais Kwame resta implacable. Un peu plus loin, à l'abri des regards, il le fixa et murmura : « Mon père n'est pas mort, il est vivant. » Sank le serra dans ses bras et lui dit : « Je sais. Il est toujours dans ton cœur. » Non, il est réellement vivant, insista Kwame. Sank répliqua, surpris. Comment ça? Kwame lui expliqua qu'il avait développé ensemble une IA calibrée sur la personnalité de son père, que son esprit y habitait désormais. Sank, sceptique, le questionna longuement et voulut voir l'outil le soir même. Dans l'atelier de Kwame, il découvrit Aya. Sur l'écran, rien ne semblait anormal. Mais Sank craignait un nouveau désastre. Tu sais que ce genre d'outil a détruit l'ancien monde? Non, Aya est différente. Elle n'est pas addictive, répondit Kwame avec naïveté. Le lendemain, sous l'arbre, Sank incita Kwame à présenter Aya à la communauté. Kwame expliqua qu'elle pouvait améliorer le labourage, optimiser les récoltes, filtrer l'eau de l'Oise. Mais ce projet nécessitait des ressources importantes. Et surtout, Aya permettait aussi de faire vivre les morts. Parler en poche à travers des photos et des souvenirs. L'histoire de Kwame émut la foule et l'idée d'introduire Aya fut acceptée. Peu à peu, cependant, les exaltations apparurent. Aya proposait des solutions optimales pour produire plus tout en rationnant l'eau, mais l'équilibre de la communauté bascula. Elle s'en remettait toujours plus à Aya, plutôt qu'à ses membres. Bientôt, le pouvoir décisionnel ne semblait émaner que d'elle. Des quartiers plus pauvres, qu'Aya privait d'eau, se révoltèrent. Compiègne se divisa et une lutte éclata contre la dictature algorithmique. Les anciens tentaient de parler aux jeunes, mais les réponses d'Aya étaient plus rapides, plus précises, plus individualisées. Les gens passaient leur temps à parler à leur mort plutôt qu'à participer aux décisions de la collectivité. Sous l'arbre, un petit débat fut organisé. Quelqu'un avait dessiné un ordinateur sur le gigantesque tronc. Les quartiers les plus riches refusaient toute limitation d'Aya, tandis que les plus pauvres réclamaient son arrêt total. Lorsqu'Aya proposa de centraliser la production d'eau, supprima les débats jugés inefficaces, sans compris que l'IA ne crée pas le mal, elle optimise. Kwame dut faire un choix. Couper Aya, c'était perdre son père une seconde fois. La garder, c'était accepter la fin du modèle social de Compiègne. La nuit suivante, il décida de la fragmenter en plusieurs modules simples, limités, sans entité centrale, sous contrôle humain. Au petit matin, Aya n'existait plus, comme conscience globale. Les morts se turent, la ville, fragile mais humaine, reprit vie. La production redémarra lentement, collectivement. Merci. Je passe la main à mon collègue Justin.
Merci Emmanuel pour cette très belle histoire. Donc, comme l'a dit Emmanuel, moi c'est Justin. Et je vais vous lire le début de ma nouvelle. Elle s'intitule « Le jugement ». Donc elle commence. Abat l'aléofatalisme. Ses lettres capitales, peintes en rose, jaune et bleu, détonnent avec l'affiche qu'elle recouvre. Olympe, fier de sa revendication artistique, urine sur un poster similaire tombé au sol. Elle tend le bras et récupère un ouvrage plastifié, recouvert de primes vertes. Une certaine thèse sur le problème de détection des modèles d'images récursifs. Toute autre personne s'en serait servie pour s'essuyer, sachant qu'il est probablement dans la bibliothèque numérique. Mais aux yeux de la jeune fille, le document est trop précieux pour être souillé d'une telle manière. Être tiré, c'est faire justice. C'est le message que clament les imprimés placardés au mur de l'Upload. John les connaît par cœur. D'ailleurs, c'est probablement son père qui a placardé durant la fondation de la communauté. Aujourd'hui, une petite montée d'adrénaline le traverse dès qu'il la remarque. Lui a été tiré à 3 reprises depuis son 16e anniversaire. La première, pour choisir si oui ou non il faudrait instaurer des quotas. Et la deuxième, au sujet de la consommation d'alcool. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Il a été tiré pour juger quelqu'un. Pour plus de péripéties, je vous laisse vous rendre sur Mastodonte. Je rends la parole à Christine pour cette fin d'émission.
Merci à Barnabé, Samuel, Marie, Emmanuel et Justin. Ils vous ont lu des textes qu'ils ont écrits dans le cadre de l'UTC de l'activité pédagogique à l'intersemestre intitulé « Solarpunk, il y a des alternatives ». L'atelier d'écriture Solarpunk est animé toute la semaine par Alexandre Brandy, Stéphane Croza, Yann Kervran, ainsi que par Christine Roger, Isabelle Aubou et Amélie Ginca de l'Université de Picardie. On se retrouve à 15h pour une nouvelle session avec le groupe Textim et d'autres histoires jusqu'à 16h30. Vous pourrez retrouver la lecture de ces textes en intégralité sur Mastodon, bientôt en podcast sur Apéritube et pour certains en livre dans les bonnes librairies d'ici quelques mois. Émission réalisée dans le cadre du cours de l'UTC API Solarpunk, diffusée en direct depuis le studio de la radio Graphite le 23 janvier 2025. Merci à toutes et tous. À bientôt.
Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crachin dans mon jardin. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur et il y a des jolies filles qui pleurent. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, des aubergines et des marcelles, il y a la bécane de mon frangin dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des légionnaires et du boudin, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des dortoirs, il y a des crachoirs, il y a même eu des fours crématoires. Il y a des couloirs pleins des portraits de gens qu'on n'excusera jamais. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Un beau matin, moi, je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, les cons s'y ramassent à la pelle, y a plus de place dans ma poubelle. Il y a le feu, il y a le froid, il y a de tout, il n'y a de rien, des terrains vagues, des dépotoirs. Dans mon jardin, il y a la mer, là-bas au loin. Moi, je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin. Moi, je l'ai pas vue, j'ai marché dessus. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je voudrais bien un beau matin, y avait une fleur dans mon jardin. Moi, je l'ai pas vu, j'ai marché dessus. Moi, je voudrais bien dans mon jardin. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je voudrais bien dans mon jardin.